Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonsoir à tous. Ces combats doivent rester une boussole. L'hommage d'Emmanuel Macron à Simone Veil, entré au Panthéon ce matin, après une cérémonie bouleversante. Une chasse à l'homme en ce moment pour retrouver Redouane Faïd. Celui que l'on surnomme le roi de l'évasion s'est échappé de sa prison en Seine-et-Marne ce matin. Une nuit troublée par les lumières. La pollution lumineuse concerne 80% de la population mondiale. Et aujourd'hui, une loi entre en vigueur. Il faudra désormais éteindre les enseignes entre 1h et 6h. Des soldats français pris pour cible au Mali. Aucune victime côté français, mais un avertissement fort envoyé à Emmanuel Macron par les djihadistes. Et puis en Allemagne, Angela Merkel dans la tourmente. Son ministre de l'Intérieur lui déclare la guerre sur la question migratoire et son gouvernement pourrait voler en éclats. On sera en direct de Berlin. Elle fait désormais officiellement partie des héros de la patrie. Simone Veil est entrée au Panthéon ce matin avec son époux Antoine. Une cérémonie très émouvante qui a débuté un peu avant 10h30 ce matin et conclue par un discours d'Emmanuel Macron. Le président a rendu hommage à celle qui incarne à elle seule l'histoire du XXe siècle, déportée à Auschwitz, combattante de l'Europe, comme l'a rappelé le président de la République. Elle est surtout connue pour avoir porté la légalisation de l'avortement en 1975. Tiffaine Honoré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez assisté à la cérémonie ce matin, une cérémonie marquée par tous ces combats, ceux qu'a porté Simone Veil toute sa vie.
C'est sous un soleil au zénith que Simone Veil et son époux ont fait leur entrée ce midi au Panthéon. Les deux cercueils, portés par des gardes républicains, ont remonté la rue Soufflot, accompagnés au violoncelle par un cantique. Une mélodie funèbre qui rappelle son adolescence brisée par la déportation. Puis le cortège s'arrête, trois jeunes filles s'avancent et comme dans une chorégraphie silencieuse, elles remercient Simone Veil en langage des signes, un hommage à son combat pour légaliser l'avortement. Sur le long tapis bleu aux couleurs de l'Europe, les choristes entonnent ensuite l'Aude à la joie, symbole de l'union et de son engagement en faveur de la réconciliation. Le président de la République prend finalement la parole pour saluer celle qui fait désormais partie des héros de la nation.
Comme Jean Monnet, Simone Veil s'est battue pour la paix et donc pour l'Europe. Elle qui avait vécu l'indicible expérience de la sauvagerie et de l'arbitraire, savait que seul le dialogue et la concorde entre les peuples empêcheraient qu'Auschwitz ne renaisse sur les cendres froides de ses victimes. Elle se fit combattante de la paix. Elle se fit combattante de l'Europe.
Parmi le millier de personnes rassemblées au pied du monument, beaucoup de femmes venues saluer celle qui s'est battue pour leurs droits. Parmi elles, Salahine El-Moussaïd, 17 ans, est déjà inspirée par le parcours de Simone Veil.
Je suis porte-drapeau depuis 10 ans. Mon arrière-grand-mère était dans les camps et dans le même convent en l'occurrence que Simone Veil. Depuis 10 ans, j'essaie de lui rendre hommage. En fait, ce qui me marque le plus chez Simone Veil, c'est que malgré tout ce qu'elle a enduré, elle est restée forte. Elle n'a pas lâché, quoi. Et c'est ça qui s'appelle des femmes fortes. Et c'est ça les modèles qu'on devrait avoir dans la vie, quoi.
Une femme forte, boussole de la République, selon les mots d'Emmanuel Macron. Elle ne sera pourtant que la cinquième à reposer au Panthéon parmi 73 grands hommes.
Merci Tiffaine Honoré. Le Panthéon qui est ouvert jusqu'à 22h ce soir pour permettre aux anonymes de se recueillir. Un dispositif impressionnant est déployé en ce moment pour tenter de retrouver Redouane Faïd, celui qu'on appelle le roi de l'évasion pour s'être échappé de la prison de Sequedin en 2013. S'est à nouveau évadé ce matin, cette fois de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Il est parti en hélicoptère grâce à des complices. Et cet après-midi donc, tout est mis en œuvre pour retrouver le braqueur Sébastien Sabiron.
C'est une véritable chasse à l'homme qui s'engage. Tous les moyens de police et de gendarmerie sont mobilisés. Un important dispositif compte tenu de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices. Vers 11h20 ce matin, trois individus lourdement armés extraient le braqueur du parloir et le conduisent jusqu'à un hélicoptère posé à proximité. Pas d'otages, pas de blessés. L'hélicoptère est ensuite retrouvé incendié à Gonesse, dans le Val d'Oise, entre les aéroports du Bourget et de Paris-Charles de Gaulle. En 2017, Redouane Faïd avait écopé de 18 ans de réclusion pour le braquage d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais. Une peine portée ensuite à 25 ans par la cour d'assises de Paris, considérant Redouane Faïd comme l'organisateur du braquage raté qui avait provoqué la mort de la jeune policière municipale Aurélie Fouquet en 2010. À 46 ans, Redouane Faïd a déjà un très long passé criminel. Premier braquage à 18 ans, prise d'otage d'un banquier et de sa famille dans les années 90. Et puis cette première évasion spectaculaire en 2013 de la maison d'arrêt de Sequedin dans le Nord. À l'aide d'explosifs et en prenant 4 surveillants en otage, Redouane Faïd avait été repris 6 semaines plus tard dans un hôtel de Seine-et-Marne.
Sébastien Sabiron pour France Culture. Et cet après-midi, le frère de Redouane Faïd a été placé en garde à vue. Il faudra désormais rouler à 80 km/h sur les routes secondaires au lieu de 90. Après des mois de polémiques, la loi est entrée en vigueur cette nuit et concerne 400 000 km de routes en France. L'objectif du gouvernement, c'est de faire baisser le nombre d'accidents. En cas d'infraction, ce sera donc désormais 68 euros d'amende et un point de moins sur le permis de conduire. Une autre mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, plus discrètement, la loi sur la pollution lumineuse. La mesure remonte à 2012, mais n'entre en vigueur qu'aujourd'hui. L'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses et les vitrines chaque nuit, entre 1h et 6h du matin. Mais si la mesure semble aller dans le bon sens, elle a du mal à s'appliquer, Sébastien Baer.
Cette mesure s'inscrit dans un contexte de forte pollution lumineuse. En l'espace de seulement 20 ans, la quantité de lumière émise la nuit a augmenté de 94%. En cause, les lampadaires, l'éclairage des routes, toujours plus présents. Un autre arrêté, qui lui date de 2013, prévoyait l'extinction des vitrines et des bureaux à partir de 1h du matin. Mais les bilans menés par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne démontrent que la mesure n'est pas très suivie. La faute à des contrôles insuffisants, regrette Anne-Marie Ducroux, la présidente de l'association.
Certains, effectivement, par manque d'informations, peut-être ne suivent pas cette mesure. D'autres considèrent qu'à partir du moment où il n'y a pas de vérification, pourquoi ils changeraient finalement ? Il ne sera pas question, après avoir obtenu un report de 6 ans, de nous dire qu'on a encore besoin de temps supplémentaire pour faire l'information et la pédagogie. Non, 84% des Français sont favorables aux extinctions de ces dispositifs lumineux aux heures creuses. On a tout à y gagner en euros, en kilowattheures, en réduction de pollution lumineuse et en répondant aux attentes des Français.
Ce décret, s'il est suivi des faits, permettra de réduire considérablement la consommation énergétique. Chaque année, 1000 gigawattheures seraient ainsi économisés, l'équivalent de la consommation électrique de 370 000 ménages.
Et puis en ce 1er juillet, le prix du gaz augmente aussi, une hausse importante de 7,45%. Cela représente pour un ménage moyen environ 90 euros par an. Au Mali, des soldats français et maliens de l'opération Barkhane visés par une attaque terroriste à Gao. D'après le dernier bilan provisoire du ministère malien de la Défense, l'attaque aurait tué au moins 2 civils et fait une dizaine de blessés. Mais l'état-major français indique qu'il n'y a aucune victime du côté des soldats français. Des assaillants qui ont fait exploser une voiture piégée, Marie Matigo.
L'attaque a eu lieu aux alentours de 11h dans le 4e quartier de Gao, près de la sortie en direction de Bourem. Une trentaine de soldats français, certains dans des véhicules blindés, d'autres à pied, patrouillaient aux côtés de l'armée malienne lorsqu'un véhicule piégé est entré dans la ville. Un blindé français a stoppé et heurté le véhicule qui a alors explosé. La détonation a été violente, 2 véhicules blindés de la force Barkhane ont été endommagés, puis des échanges de tirs ont eu lieu entre les militaires français et les assaillants. Cette nouvelle attaque a eu lieu 2 jours seulement après celle contre le quartier général de la force du G5 Sahel, qui a fait 3 morts dans le centre du Mali à Sévaré. C'est le même mode opératoire, un véhicule piégé, en pleine ville, en pleine journée. L'attentat contre le QG de la force du G5 Sahel avait été revendiqué par le groupe pour le soutien à l'islam aux musulmans, la principale coalition djihadiste au Mali, affiliée à Al-Qaïda, et qui revendique la majorité des attentats perpétrés dans le pays. Ces 2 attaques, à moins d'un mois de l'élection présidentielle au Mali, démontrent la capacité d'organisation et de nuisance des groupes djihadistes en brousse, mais aussi au cœur des grandes villes maliennes.
On a une attaque qui, on le disait, est la 2e en moins de 48 heures dans le pays. Pour Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, c'est une nouvelle provocation des djihadistes à l'encontre de la France.
Comme ils n'ont pas des capacités importantes maintenant sur l'ensemble du Sahel, ce sont des messages. Et c'est vrai que d'attaquer vendredi la base de Sévaré du G5 Sahel, soutenue par la France, et en même temps d'attaquer à Gao directement les forces Barkhane. C'est vraiment un message envoyé à Emmanuel Macron avant son voyage non seulement en Mauritanie à Nouakchott, mais aussi la mobilisation du G5 Sahel à travers le sommet de l'Union africaine. C'est vraiment c'est une provocation à l'adresse de la France qui essaye de mobiliser en particulier la Mauritanie d'une façon beaucoup plus active au sein de ce G5 Sahel qui comporte tous les pays de la région. Il y a un bataillon par armée de Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Donc je veux dire, c'est un message vraiment très sévère. Hein. On voit qu'ils ont quand même des capacités encore de s'en prendre directement à des états-majors, les camps les plus barricadés.
Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, il était interrogé par Nabila Hamel pour France Culture. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur d'Angela Merkel va au clash. Appuyé par son parti, le CSU, il avait fixé un ultimatum à la chancelière allemande. Soit elle durcissait sa politique migratoire, soit il menaçait de fermer les frontières. Mais ce soir, le ministre de l'Intérieur considère que les compromis accordés par Angela Merkel ne sont pas suffisants. Une déclaration qui fait office de déclaration de guerre. D'ailleurs, les réunions de crise s'enchaîne depuis cet après-midi. David Philippot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Berlin pour France Culture et l'enjeu essentiel qui joue ce soir, c'est bien la survie du gouvernement d'Angela Merkel.
Effectivement, plusieurs options sont encore sur la table, mais dans une interview à la télé publique, Angela Merkel a déclaré que la balle est dans le camp de la CSU. La direction du parti bavarois est donc réunie à Munich et les échos font état de tension, d'une escalade de la situation. Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur, se dit donc mécontent des résultats obtenus à Bruxelles, des décisions qui ne lui permettent pas de mettre en œuvre ce qu'il souhaite, le refoulement des migrants déjà enregistré dans un autre pays de l'Union européenne. Les deux protagonistes de ce combat des chefs, Merkel et Seehofer, doivent s'exprimer en début de soirée à l'issue de leurs réunions respectives avec leur parti. Si le ministre met à exécution sa menace de fermer la frontière avec l'Autriche, ce serait un casus belli avec la chancelière qui reste ferme sur un principe. Pas de décision unilatérale et l'accord du pays concerné par le retour des migrants. C'est dans ce sens qu'elle a négocié des accords bilatéraux avec une dizaine de pays européens. C'est aussi dans ce but qu'elle a proposé une solution de compromis aux Bavarois avec des centres fermés et sécurisés en Allemagne pour cette catégorie de migrants. Deux propositions rejetées en bloc par Seehofer, les yeux rivés sur les élections régionales d'octobre et qui semblent donc décider à la confrontation avec la chancelière. Mais attention, cela ne signifie pas automatiquement rupture entre les deux partis frères et éclatement de la majorité. De nouvelles négociations pourraient s'ouvrir ou alors Horst Seehofer démissionner et être remplacé à son poste. On attend donc, Margot, que cette situation plutôt tendue ici en Allemagne se décante.
Merci David Philippot en direct de Berlin pour France Culture. Les Mexicains, eux, ont commencé à voter depuis un peu plus de 2 heures pour choisir leur nouveau président de la République et remplacer Enrique Peña Nieto. Un scrutin qui devrait, sauf surprise, marquer un tournant dans la vie politique du pays et consacrer un parti de gauche, celui d'Andrés Manuel López Obrador. Celui que les Mexicains appellent par ses initiales AMLO a fait campagne sur un programme anti-système et anti-corruption avec une promesse, faire stopper les violences liées au narcotrafic et qui déchirent le pays depuis des mois. Pendant la campagne, au moins 136 personnalités politiques ont été assassinées. Les Émirats arabes unis annoncent une pause dans leur offensive sur le port de Hodeïda au Yémen contre les rebelles houthis. Une trêve destinée à faire avancer le processus de pacification engagé à l'ONU. Les Émirats qui ne comptent pas pour autant reculer sur leur position, ils réclament toujours le retrait des rebelles de ce port stratégique de l'ouest du pays. C'est une loi directement tirée des leçons du mouvement MeToo, une loi sur le consentement sexuel qui entre en vigueur en Suède aujourd'hui et qui considère tout acte de pénétration sans consentement express comme un viol. Jusque-là, comme dans la loi française, un viol n'était caractérisé que s'il y avait violence ou contrainte. Mais le texte est très critiqué en Suède. Les opposants estiment qu'il est inapplicable en pratique. La météo de ce dimanche, la chaleur et surtout les orages. 21 départements sont en vigilance orange dans l'ouest de la France et le Rhône est toujours en vigilance canicule.